j'ai une très bonne question pour vous. Dieu est-il en droit de nous exiger une entière soumission à sa volonté? Le livre de l'Apocalypse va nous donner une réponse claire et précise, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on est encore dans l'introduction du livre de l'Apocalypse aujourd'hui, pour la troisième fois. Et ce qu'on va recevoir comme enseignement dans quelques instants est tellement bon que je me dis qu'on peut s'attendre à de vraiment belles révélations de la part de Dieu au cours des jours où il va nous enseigner ce dernier livre de la Bible. Alors voici les questions qu'on a pour lui aujourd'hui. Quelles sont les étapes de l'Apocalypse? Quel est le sujet du livre de l'Apocalypse? Dieu est-il en droit de nous exiger une entière soumission à sa volonté? Qu'est-ce que Jésus déclare à propos de lui-même dans le livre de l'Apocalypse? Pourquoi l'Église d'aujourd'hui connaît-elle tant de problèmes? Le passé, le présent et l'avenir sont-ils décrits clairement dans le livre de l'Apocalypse? Ce livre décrit-il les lieux célestes? Quel est le thème de ce livre de la Bible? Restez là, nos réponses ne vont pas tarder. Le Seigneur va nous les donner par la puissance de son esprit et par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous aide à comprendre ce que tu nous enseignes. Remplis-nous de ton esprit aujourd'hui. Remplis ton serviteur de ton esprit et touche nos cœurs par ta belle parole. Transforme nos vies pour qu'on serve à ta gloire jusque dans l'éternité. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que l'approche futuriste prémillénariste est acceptée dès les premiers temps de l'Église. Le choix de la bonne approche d'interprétation pour le livre de l'Apocalypse est extrêmement important, car l'auteur, l'apôtre Jean, nous avertit que tout égarement aura de sérieuses conséquences. Les étapes de l'Apocalypse. Les Évangiles et le livre des Actes nous parlent de la vie physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dans un certain sens, l'Apocalypse prend le relais à partir de là. On peut donc dire que le préambule de l'Apocalypse est la crucifixion de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Le premier chapitre nous présente Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Les chapitres 2 et 3 nous relatent l'histoire de l'Église à travers plusieurs études de cas spécifiques. Au chapitre 4 et 5, nous voyons le transfert de l'Église au ciel. Pendant ce temps, sur la terre, nous assistons à la grande tribulation, au chapitre 6 à 18. Au chapitre 19, nous voyons Jésus-Christ revenir physiquement sur la terre et établir son royaume. Le chapitre 20 nous présente le règne millénaire de Jésus-Christ. Ensuite, le grand trône blanc est décrit. Il s'agit de l'endroit où les âmes perdues seront jugées, pour être ensuite jetées en enfer. Finalement, au chapitre 21 et 22, l'éternité commence. Nous élaborerons sur cette séquence pendant les prochaines émissions. La souveraineté de Dieu sur le monde. J'aimerais rapporter ici une observation pertinente de Stauffer. L'empereur romain Domitien a été le premier à se mettre en campagne contre le Seigneur Jésus-Christ. L'Église a répondu à cette attaque sous le commandement du dernier apôtre de Jésus-Christ, Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Auparavant, Néron avait fait exécuter Paul et Pierre, mais il les considérait davantage comme des Juifs séditieux et rebelles à l'autorité de Rome. Domitien était le premier empereur à comprendre que, derrière ce mouvement chrétien, il se trouvait un personnage énigmatique qui menaçait la gloire des empereurs. Il a été le premier à déclarer la guerre à ce personnage et aussi le premier à perdre cette guerre. Beaucoup d'autres allaient connaître le même sort. Le sujet de ce livre est très important à voir. Il s'agit de la souveraineté de Dieu sur toute sa création. Je reviendrai souvent là-dessus, car beaucoup de commentateurs insistent sur des détails secondaires au point de négliger l'essentiel. Pourtant, l'auteur annonce clairement l'intention du livre dès le début. Lisons immédiatement le premier verset. « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Gardons toujours à l'esprit que ce livre est la révélation des choses futures. Cette révélation est faite par Jésus-Christ qui l'a lui-même reçue de Dieu le Père. Cette révélation du Fils par le Père s'est déjà faite en partie dans les Évangiles, mais elle se complétera au retour de Jésus-Christ sur la terre. Ce retour est toutefois annoncé dans l'Apocalypse. Dieu s'est servi de ses serviteurs, les prophètes, pour authentifier que la Bible contenait bien la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient à l'avance les événements futurs, et quand les prédictions se réalisaient, parfois plusieurs siècles plus tard, Israël savait que ce prophète avait vraiment été envoyé par Dieu. L'aspect prophétique de la Bible a toujours fortement indisposé un certain groupe de théologiens. Ils refusaient d'accepter cette manifestation de pouvoir surnaturel. Depuis environ un siècle, ils ont cherché à imposer à l'Ancien Testament un système de datation totalement farfelu, mais conforme à leurs présuppositions. Si, par exemple, le livre de Zacharie prédisait la venue d'Alexandre le Grand en termes si clairs que son identité ne faisait aucun doute, ces théologiens modernes prétendaient qu'il avait été écrit après la naissance d'Alexandre, même si le livre lui-même était clairement daté deux siècles plus tôt. Leur volonté d'affirmer leur système d'interprétation était si déterminée que cela leur était égal d'accuser la Bible de mensonge et de fraude. Ces étranges enseignants n'aiment pas les prophéties déjà accomplies, et ils n'aiment pas non plus les prophéties qui ne le sont pas encore. C'est pourquoi ils nieront le contenu prophétique de l'Apocalypse, tout comme ils ont souvent nié le contenu prophétique des livres de l'Ancien Testament. Dans les Évangiles, nous voyons Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Mais ces Évangiles ne décrivent pas complètement la révélation de Jésus-Christ. Nous le voyons alors dans l'humiliation. Mais dans l'Apocalypse, nous le verrons dans la gloire. Nous le verrons alors exercer un contrôle absolu sur toute chose. Ce sera le dévoilement de Jésus-Christ. Snell a tellement bien exprimé cette vérité qu'il mérite d'être cité. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est le centre autour duquel tous les autres éléments se réunissent. Il est le fondement sur lequel toute chose durable est construite, le clou sur lequel tout est accroché, l'objet vers lequel tout pointe et le ressort qui donne son impulsion à toute bénédiction. L'agneau est la lumière, la gloire, la vie, le Seigneur des cieux et de la terre. Toute corruption et tout mal doivent fuir devant sa face, mais la plénitude de la joie s'y complaît. Lui seul peut nous la faire connaître entièrement. Nous ne pouvons donc pas avancer très loin dans l'étude du livre de l'Apocalypse sans rencontrer cet agneau. Comme les panneaux de signalisation qui nous dirigent sur notre chemin, les différentes références à l'agneau nous rappellent qu'il a expié nos péchés, qu'il est maintenant glorifié et que devant lui tout genou fléchira et toute langue le confessera. Quelle déclaration grandiose de la majesté et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu régnera sur cette terre. Telle est l'intention de Dieu et tel est son but ultime. Les étranges voient de Dieu. Mais la question se pose, pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi envoyer d'abord son Fils sur la terre dans l'humilité, pour ne pas dire l'humiliation, pour ensuite le faire revenir dans la gloire plusieurs siècles et millénaires plus tard? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 39, la parabole suivante nous propose plusieurs éléments de réponse. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Même si cette parabole s'adressait d'abord au peuple rebelle d'Israël, je crois qu'elle s'applique aussi à toute l'humanité pécheresse. Le maître de la maison qui a planté la vigne est Dieu, le créateur de l'univers. Il nous a tous créés, et il est donc en droit d'exiger de nous une entière soumission à sa volonté. Il a d'abord envoyé ses serviteurs, les prophètes de l'Ancien Testament, et ensuite son fils Jésus-Christ, pour nous rappeler nos obligations envers lui. Mais très souvent, nous n'en avons fait aucun cas. Bien pire, l'humanité a souvent maltraité les messagers de Dieu, allant même jusqu'à crucifier son Messie. Dieu est souverain sur toutes choses, et personne ne peut s'opposer à sa volonté et à son plan. Toutefois, il préfère de loin des serviteurs qui lui obéissent par amour que des esclaves qui lui obéissent malgré eux et sans même en être conscients. Dieu désire beaucoup plus l'amour d'un enfant envers son père que la crainte d'un esclave devant un souverain tout-puissant. C'est pourquoi il a d'abord envoyé son fils sous un aspect d'humilité, afin que cela ne soit pas la crainte de sa puissance qui nous incite à l'obéissance, mais notre amour pour lui. Cet amour n'est rien d'autre que le reflet de l'amour de son fils Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. La volonté de Dieu pour ses créatures humaines est claire, entre autres dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans son évangile, il nous donne tout le nécessaire pour nous conduire au salut éternel. Mais si nous refusons de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur maintenant, un jour, il sera notre juge. Que cela nous plaise ou non, tout homme qui refuse d'obéir à Dieu après avoir pris connaissance de sa volonté devra en subir les conséquences éternelles. À la fin de sa parabole, Jésus pose la question suivante, au verset 40. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Que fera Dieu de ces créatures rebelles qui ont tué son fils ?» Ses interlocuteurs lui répondent au verset suivant, « Il fera périr misérablement ces misérables. » Au jour du jugement de Dieu, les pécheurs eux-mêmes reconnaîtront leur désobéissance, leur rébellion et leur endurcissement contre Dieu. C'est pourquoi il est écrit, cette fois dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, versets 10 et 11, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le passé, le présent et l'avenir. Je le répète, si nous suivons les instructions de l'auteur, le livre de l'Apocalypse n'est pas compliqué à comprendre. Il est séparé en sections facilement repérables. Nous n'avons donc pas à en retracer la structure, puisque l'apôtre Jean l'a déjà fait pour nous, selon les instructions qui lui ont été données. » Au verset 18 du chapitre 1, voici comment s'adresse à nous le Seigneur Jésus, alors devenu le Christ glorifié. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans ce verset, Jésus déclare quatre choses sur lui-même. Il est vivant, il était mort, il est vivant au siècle des siècles, et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Au verset suivant, il demande à l'apôtre Jean d'écrire, et il lui donne en même temps la structure du livre. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. il nous donne les sections du livre afin que nous puissions les utiliser. Jésus déclare d'abord « Je suis le vivant ». Il donne ensuite ses instructions à l'apôtre Jean. « Écris donc ce que tu as vu. Le temps est au passé. » Il se réfère à la vision du Fils de l'homme dans les cieux, le Christ glorifié au chapitre 1. Ensuite, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et il demande à Jean d'écrire ce qui est. Le temps est présent et fait référence au ministère présent de Jésus-Christ. Nous verrons que le Christ ressuscité et vivant s'occupe à faire beaucoup de choses encore aujourd'hui. Entre autres, il est le chef et la tête de son Église. Savez-vous pourquoi l'Église d'aujourd'hui connaît tellement de problèmes? Parce que l'Église est comme un corps décapité. Beaucoup de membres ne sont plus en contact avec sa tête, qui est Jésus-Christ. Nous verrons quel est le ministère de l'Église dans les chapitres 2 et 3. Troisièmement, Jésus dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et quand nous arriverons au chapitre 5, nous verrons que personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait ouvrir le livre aux sept sceaux. Le sujet des chapitres 4 à 22 porte sur les événements qui doivent arriver à l'avenir. C'est pourquoi Jésus dit à son disciple, « Écris donc ce qui doit arriver ensuite. » En fait, à la fin de la phrase, le grec du texte original utilise l'expression « meta tota », qui veut dire « après ces choses ». La traduction littérale donne donc « écris donc ce qui doit arriver après ces choses ». Après quelles choses? Après les choses de l'Église. Les événements décrits dans les chapitres 4 à 22 auront lieu après l'enlèvement de l'Église. Avant la grande tribulation, les chrétiens vivant en ce temps-là seront enlevés de la terre. Beaucoup de gens commettent l'erreur de prendre les événements décrits dans cette troisième section afin de les faire cadrer dans le temps présent. Mais ces événements se déroulant sur la terre ne se produisent pas aujourd'hui. Ils se produiront après l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous voyons tant d'interprétations bizarres et excentriques de nos jours. Pourquoi ne suivons-nous pas le plan de l'auteur? Il nous donne le passé, le présent et l'avenir du livre de l'Apocalypse. Quand il sera rendu au temps du meta tota, après ces choses, il nous le laissera savoir. Nous ne pourrons pas le rater, à moins de suivre un système d'interprétation qui fait violence au livre de l'Apocalypse. Personne, possession et programme de Jésus-Christ. Nous pouvons donc suivre le déroulement des opérations en utilisant les divisions suivantes. Premièrement, au chapitre 1, nous voyons la personne de Jésus-Christ. Il est le Christ glorifié, le Fils de l'homme dans les cieux. Son message pour cette section est « Je suis le vivant ». Et sa consigne pour l'apôtre Jean est « Écris donc ce que tu as vu ». Nous avons donc une description du passé. Deuxièmement, au chapitre 2 et 3, nous voyons la possession de Jésus-Christ. Il s'agit de l'Église. Celle-ci lui appartient. L'Église, à travers les siècles, est représentée par sept églises locales qui ont vraiment existé au temps de la rédaction du livre. Cette section nous parle du rôle de l'Église dans le monde. Le message de Jésus est « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Sa consigne est « Écris ce qui est ». Nous avons donc une description du présent. Troisièmement, au chapitre 4 à 22, nous voyons le programme de Jésus-Christ. Nous obtenons une vision future d'un temps d'intense crise. Nous y verrons le Christ cosmique après l'enlèvement de la véritable Église et avant le retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Le message de Jésus est « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce qui doit arriver après ces choses. » Le constant présent des lieux célestes. À nous qui vivons sur la terre, cette troisième section appartient à notre futur. Mais dans les lieux célestes, ces événements futurs sont déjà présents. L'image suivante peut nous aider à comprendre. Lorsque nous suivons une piste dans la forêt, très tôt, nous ne voyons plus notre point de départ et nous ne voyons pas encore notre point d'arrivée. Mais si nous pouvons nous élever dans les airs, nous verrons tout, notre point de départ, tout le chemin et notre point d'arrivée. Il en est de même dans les cieux. Le prophète, en tant qu'homme de Dieu, obtient souvent une vision du futur, car ce futur terrestre est déjà inscrit dans les lieux célestes. C'est pourquoi on voit également dans l'Apocalypse une description détaillée des lieux célestes. Cette dernière section porte donc sur l'accomplissement futur de toutes choses sur la terre. Cela fait de l'Apocalypse un livre merveilleux et glorieux si on le considère d'un point de vue céleste. Et cela, même si, d'un point de vue terrestre, il annonce des temps très difficiles. Dans la première section du livre de l'Apocalypse, nous verrons Jésus-Christ œuvrant en tant que grand souverain sacrificateur. Il tient les guides de son Église. Dans les Évangiles, nous le voyons doux et humble. Sur la terre, il s'est offert en cible à ses ennemis et il est mort sur la croix. Mais ici, la description du Christ glorifié est complètement différente. Il détient le contrôle absolu. Il est toujours l'agneau de Dieu, mais sa colère est maintenant révélée, la colère de l'agneau. Cette colère terrifie la terre entière. Quand il exprime sa colère, son jugement s'exerce sur la terre. La personne de Jésus-Christ est le thème de ce livre. Et quand la scène se déplace dans les lieux célestes, nous le voyons encore au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ est le thème central non seulement du dernier livre de la Bible, mais de la Bible tout entière. Les Écritures sont en même temps théocentriques et christocentriques. En d'autres mots, elles sont en même temps centrées sur Dieu et sur Jésus-Christ. Puisque Jésus est Dieu, il est celui qui remplit l'horizon de la totale parole de Dieu. Nous devons toujours garder cela en tête lorsque nous étudions l'Apocalypse. L'ensemble de la Bible nous apprend ce que Jésus a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est pourquoi Jésus lui-même affirme « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». Jésus vivait avant toute chose et il sera encore vivant après toute chose. Il contrôle tout. L'Apocalypse souligne en même temps ce qu'il fait présentement et ce qu'il fera à l'avenir. Il y a quelques émissions, nous avons vu que Malachie le prophète, le dernier livre de l'Ancien Testament, mentionnait la venue prochaine d'un « soleil de la justice » qui allait bientôt se lever. Il s'agissait bien sûr de la venue de Jésus-Christ sur la terre. L'Ancien Testament se termine avec une note d'espoir pour une terre maudite. Un espoir qui est devenu réalité à l'incarnation de Jésus-Christ. Quant à l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, il se termine en mentionnant la venue de l'étoile brillante du matin. Il s'agit encore de Jésus-Christ qui reviendra prendre avec lui son Église et l'enlever hors du monde. L'enlèvement de l'Église est l'espoir du Nouveau Testament, tout comme la révélation de Jésus-Christ était l'espoir de l'Ancien Testament. Chers amis, le livre de l'Apocalypse mettra la touche finale au glorieux tableau de la révélation de Jésus-Christ. J'aimerais vous poser une seule question. Quel lien avez-vous avec la personne de Jésus-Christ? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 1 à 3. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Eh bien, mes amis, c'est clair. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est le centre autour duquel tous les autres éléments se réunissent. Il est le fondement sur lequel toute chose durable est construite, le clou sur lequel tout est accroché, l'objet vers lequel tout pointe et le ressort qui donne son impulsion à toute bénédiction. C'est bien dit, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui étaient réellement attentifs à l'enseignement d'aujourd'hui, vous savez que je viens tout simplement de citer ce que Régent nous a si bien dit au sujet de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement heureuse que Régent ait mentionné qu'on allait entendre parler de cet agneau de Dieu tout au long de l'enseignement de l'Apocalypse. Jésus est mon sujet préféré. Il est celui que j'attends, que j'ai hâte de voir face à face, celui qui m'a sauvé, celui qui est présent dans ma vie quotidienne. À la fin du dernier verset, du dernier chapitre de l'Évangile de Matthieu, il dit ceci à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et j'ai remarqué, mes amis, que plus je cherche sa face en lisant sa parole, en la méditant et en priant, plus je peux goûter à sa divine présence. Ne pas juste savoir qu'il est là, mais goûter qu'il est là. Récemment, lors de notre temps de louange à l'église, j'ai sorti de nouveau un de mes chants préférés qui s'adresse justement à l'agneau de Dieu. C'est un chant d'Élisabeth Bourbouze, composé en 1993. Permettez-moi de vous en citer les paroles. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent « Viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles des siècles. Amen. » Quelle belle parole de vérité. Oui, mes amis, l'agneau de Dieu mérite la gloire. Jésus, Dieu fait homme, qui s'est laissé faire comme un agneau qu'on mène à la boucherie, tel que décrit dans le 53e chapitre du livre d'Ésaïe, est digne de toute la gloire qu'il a maintenant dans le ciel, de toute la gloire qu'il aura quand il viendra régner sur la terre, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse, et de toute la gloire qu'il aura quand nous, les croyants, serons enfin réunis avec lui dans la Jérusalem céleste et que nous vivrons dans ce bonheur parfait qui nous a été offert gratuitement, puisque c'est lui, l'agneau de Dieu, qui a tout payé en mourant sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu! Gloire à Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé. Gloire à l'agneau de Dieu.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.